Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Mots qui blessent, soupirs, portes qui claquent, bouderies à l'adolescence, les relations parents-enfants peuvent prendre un virage difficile. Limites, autonomie, modèles, les attentes des parents ne correspondent pas forcément aux désirs des plus jeunes et les motifs de tension sont nombreux. La scolarité, le rangement, l'argent de poche, les sorties, les fréquentations, les projets d'avenir, l'amour, le sexe pour les adultes, le sentiment parfois de ne pas comprendre ce qui se passe et pour les plus jeunes, l'exaspération d'entendre un père, une mère citer en exemple sa propre jeunesse pour tenter de convaincre du bien fondé de telles habitudes, de tels comportements ou de telles obligations. Et s'il y a friction sur le respect des horaires ou une corvée qui n'est pas accomplie, que dire des sujets plus sensibles, l'amour, le corps qui change, certains amis jugés infréquentables, alors comment réagir? Faut-il tout se dire? Faut-il garder son jardin secret? Pourquoi certains sujets sont-ils encore tabous? Comment maintenir une communication de bonne qualité et surtout éviter la rupture? Autant de sujets que nous allons aborder au cours de cette émission, bien sûr. On attend vos questions nombreuses au 33 84 22 75 75. Nous vous donnons la parole pour vous écouter et avec nous pour répondre à ces questions en studio, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris et parmi les ouvrages que vous avez signés, docteur Gavard, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête aux éditions Marabout. On vous retrouve et ce sera le cas chaque mois dans Priorité Santé désormais. Adja Idrissaba, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes étudiante, présidente du Parlement des enfants et présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Ce fameux dialogue entre les générations, ça concerne tous les parents, tous les enfants du monde. À divers degrés, avec différents contextes, différentes cultures. Docteur Marie-Claude Gavard, période particulière, l'adolescence, parfois difficile de se parler à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'explique justement les psys? Pourquoi cette période de l'adolescence avec tous ces changements, ça complique aussi les relations parents-enfants?
Alors, les parents sont assez tranquilles lorsque les enfants sont petits, parce que les enfants suivent tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent. Et quand il y a une petite rébellion, par exemple à 3 ans, quand les enfants disent non, on sait que ça va passer. Maintenant, je pense que cette émission est fondamentale déjà pour conseiller aux parents de se rappeler leur propre adolescence. Lorsque nous étions, puisque moi je fais partie des parents également, lorsque nous étions ados, nous avons trouvé que nos parents avaient un côté ringard, qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre et que vraiment nous ferions franchement mieux avec nos enfants. Eh bien, maintenant que nous sommes très nombreux à avoir des adolescents, c'est notre tour d'être traités de ringards, alors traités ou regardés comme des ringards, et nous devons absolument nous rappeler notre propre adolescence pour nous dire que non, nous n'avons pas toujours raison, les choses ont évolué et qu'il y a un besoin d'adaptation par rapport à nos adolescents et dans un respect mutuel. C'est-à-dire qu'ils ont à nous expliquer ce qui leur arrive, et ça, ils peuvent le faire si depuis l'enfance, nous communiquons avec eux dans le respect, la gentillesse, la bienveillance, et leur apprendre dès la petite enfance que nous sommes une équipe familiale où tout le monde a intérêt à être gentil avec tout le monde, et donc sans cri, et dans le respect de l'interrogation de l'autre. Si on a cette notion que nous-mêmes, adolescents, nous avions exactement les mêmes difficultés et que nos parents ne nous comprenaient pas forcément, ils n'avaient pas toujours raison, là, il y a un dialogue et il y aura beaucoup moins de ruptures avec nos adolescents.
C'est un monde idéal. Il y a quand même des petites disputes. Est-ce qu'on va dire quand même, docteur Gavard, que ces petites disputes du quotidien, surtout quand on est ado et parent, c'est tout à fait normal?
Oui, alors, disputes.
Tout dépend du degré.
Des discussions. Mm-hmm. Parce qu'il est très important qu'il n'y ait pas de parents ou d'enfants qui haussent la voix, qui s'insultent, etc. Parce que là, on voit qu'il y a déjà une problématique de respect et d'angoisse mutuelle. Les parents doivent expliquer à leur adolescent que si ils ont l'air d'être agacés, etc., c'est qu'ils s'inquiètent, à tort ou à raison, mais ils s'inquiètent pour leurs enfants. C'est-à-dire que c'est important que l'adolescent ne pense pas que ce soit l'autoritarisme pour l'autoritarisme. Ils doivent aussi comprendre que les parents ont comme objectif qu'ils soient heureux dans la vie avec un bon travail.
Et y compris qu'on ait des points de vue différents.
Ah, mais bien entendu. Et les points de vue comme les personnalités différentes sont éminemment respectables.
Alors, conflit à l'adolescence, quand on est un petit peu plus vieux dans sa jeunesse, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez souvent, Adja Idriss Abba, avec les jeunes hein, avec lesquels vous êtes en contact, des groupes de filles, des groupes de garçons? Est-ce qu'on parle justement entre soi, justement, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe avec les parents?
Ah oui, c'est quand même dommage, d'où l'importance de ce sujet aujourd'hui, parce que la jeunesse a du mal à aborder vraiment leurs parents, qui sont censés être leurs protecteurs et leurs confidents d'eux-mêmes. Mais vu l'expérience que nous avons de l'autre côté, j'ai rencontré vraiment des jeunes dans les différentes écoles. Vraiment, tu les vois un peu soudés, les filles entre elles, les garçons entre eux. Donc, ils essaient de créer des groupes entre eux. Et même des fois, ces groupes existent sur les réseaux sociaux, ils essaient d'aborder, de se confier l'un à l'autre, parce que en fait, ils n'ont pas cette occasion, cette chance de partager vraiment leur secret, le petit secret avec leurs parents, et qui est aujourd'hui un sujet tabou, notamment les sujets dont tu viens de citer tout à l'heure, la sexualité, tout ce qui est, voilà, ton avenir, tes projets, et voilà, si tu veux te marier, comment tu vas faire et tout. Donc franchement, c'est des sujets qu'on n'aborde vraiment pas et que le parent pense, ne sait pas réellement la pédagogie, parce que comme vous l'avez dit, madame, aujourd'hui, les parents se soucient, ils veulent vraiment que leurs enfants deviennent des grandes personnes demain, mais ne savent pas réellement comment faire, en fait. Donc, ceux-là, on le rencontre tout le temps, et des parents qui le font pas, ben c'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais il suffit juste de briser la chaîne et de dire, parce qu'eux aussi, ils ont vécu la même chose. Et voilà, à un moment donné, les jeunes aussi doivent savoir que même si les parents ne les abordent pas, mais qu'ils viennent un peu essayer d'en parler avec eux. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'on pense que c'est anormal. C'est pas anormal. C'est vraiment, en fait, c'est pas anormal de parler de ces sujets avec nos parents et que c'est logique, en fait. Donc, pourtant, c'est pas le cas et que c'est vraiment important, quoi.
Pourtant, il y a de la gêne. Hein. Est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que c'est des interdits? Il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Les parents, quand on aborde certains sujets, on entend parfois, on en parlera plus tard, et en fait, on n'en parle jamais.
Et effectivement, c'est ça, d'ailleurs. On en parlera plus tard. Le moment viendra où on va en parler. Et donc, l'enfant est là, curieux. Il cherche par tous les moyens. Donc, c'est ce qui fait des fois que l'enfant rentre dans des erreurs et ne sachant pas réellement qu'il est dans le mauvais chemin. Et donc, du coup, c'est vraiment, des fois, les parents pensent qu'ils font le meilleur, mais à un moment donné, ça devient le pire pour l'enfant et pour les jeunes. Donc, on en a vraiment besoin, et à un moment donné, c'est que il faut que les jeunes aillent récupérer cela par degré ou de force quand même, et ça engendre beaucoup de conséquences sur vraiment l'avenir des jeunes.
Surtout quand ils sont mal informés, justement, ces pères, ces mères qui pensent que c'est trop tôt pour en parler, voire que ce sont des sujets trop crus, des questions qu'on n'aborde pas forcément. Ils n'ont pas forcément, hein, docteur Gavard, le mode d'emploi pour savoir comment gérer ces jeunes, gérer ces ados.
Ah, mais c'est bien le problème, hein, parce que s'ils avaient le mode d'emploi, il y aura à la limite pas plus ce problème. Et en fait, lorsqu'un jeune pose une question, c'est qu'il est temps de lui répondre. Il n'y a pas à retarder. Alors si, notamment, la question de la sexualité gêne les parents, pourquoi pas? Il y a toute une littérature qui est assez, qui est écrite en fonction de l'âge. Les parents peuvent acheter des livres et les laisser traîner. Et comme ça, ils sont sûrs qu'il y aura une information adéquate si eux ne se sentent pas de la faire. Et ce serait bien qu'il y ait ce complément d'information, parce que les jeunes entre eux peuvent véhiculer des erreurs également.
Exactement. Quand on n'a pas justement les bonnes sources, on peut être induit en erreur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, Adja Idriss Abba, qu'on se tourne notamment, on pense bien sûr, Internet, les réseaux sociaux, et là on a beaucoup de choses et surtout n'importe quoi.
Bien sûr. Et ça, c'est d'ailleurs les conséquences, en fait, de tout ce qui est, voilà, réseaux sociaux, Internet, parce qu'à un moment donné, l'enfant ne doit pas avoir accès à tout. Donc, il faut vraiment essayer d'adapter cela d'une manière à ce que l'enfant ne se perturbe pas dans ses recherches. Par exemple, lorsqu'on prend les documents sacrés tels que le Coran ou la Bible, les parents, des fois, ils disent, bon, écoute, je te donne ce document. Là, tu vas lire ça et tu comprendras mieux. Mais à un moment donné, l'enfant peut ne pas être d'accord avec ce qui est dedans et tu viens, tu contredis ça. On te dit non, c'est pas possible, tu peux pas contredire. Même si à un moment donné, l'enfant a raison parce que le moment a changé. C'est-à-dire, les temps ont changé, que l'enfant voit plus devant. Mais quand on, par exemple, on va guider l'enfant vers l'internet, on va dire bon, si tu veux vraiment savoir c'est quoi la sexualité, vas-y, cherche toi-même et tu sauras. Parce qu'ils ont peur d'en parler. Ils se
et
disent
donc,
bon,
là, il va avoir des choses bien pires que tout ce qu'ils auraient
bien
pu raconter.
Bien pire, parce qu'on sait ce qui se trouve sur l'internet et que les jeunes aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'ils sont sexuellement très actifs, c'est vraiment pas comme ça que ça vient. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas eu la bonne information et c'est les parents qui les conduisent à ces erreurs-là. Pourtant, ils doivent reprendre leurs responsabilités. Quand on prend les questions de viol, aujourd'hui, ça continue parce que les parents refusent de parler vraiment avec leurs enfants sur les dangers qui sont en train de guetter les jeunes aujourd'hui et que les enfants sont mis de côté. Les jeunes filles, de même, sont mis de côté, ils n'ont pas le temps. Ils se disent, ils n'ont pas le temps, ils reviennent. Mais pourquoi on n'a pas le temps de ces enfants? À un moment donné, ils sont tellement nombreux dans nos différentes familles. On a plus de 10, 20, 20 enfants dans une même famille. En fait, les deux parents ne peuvent pas parler avec tous ces gens. Mais il y a certains enfants qui sont vraiment privilégiés, notamment les aînés, souvent dans les différentes familles. C'est ceux qui sont plus privilégiés, ça disant que bon, tout l'avenir de mes enfants repose sur l'aîné. Donc, et les autres ne bénéficient pas de leurs droits. Pourtant, c'est leur droit. Ils ont vraiment besoin d'échanger avec leurs parents et de savoir réellement leur vie. Et c'est quand il est temps. Il ne faut pas mettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Docteur Gavard, on va prendre les auditeurs. Vous vouliez réagir.
Oui, alors Internet et l'accès à la pornographie est vraiment un facteur de déséquilibre et un enseignement totalement faux de ce que peut être la sexualité avec beaucoup de blocages qui s'en suivent. Donc attention, il faut les contrôles parentaux bien entendu, attention aux jeunes qui vont chez des copains copines qui ont des aînés, qui vont leur montrer des films porno. La pornographie est une grande source de déséquilibre.
Ce n'est pas de la sexualité, c'est de la pornographie.
Ah, c'est de la pornographie, ce n'est pas du tout de la sexualité et c'est complètement coupé des sentiments. Et donc, il y a une notion de corps qui est tout à fait erronée.
On prend tout de suite nos auditeurs en ligne.
Priorité santé, allô?
Question des auditeurs, vos réponses, docteur Gavard, bien sûr, à Jaïd Rissaba. Si vous souhaitez réagir, on vous donne la parole et on retrouve tout de suite en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Élie en ligne avec nous. Bonjour Élie.
Bonjour.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Alors, je pense que concernant ce thème, moi j'ai eu un petit problème avec mes parents, c'est que et lorsqu'on cause, lorsqu'on discute sur des sujets, les parents ont très souvent tendance à dire qu'ils ont toujours raison. C'est-à-dire, tout ce que l'enfant, tout ce que moi, je leur dis, ça ne le concerne pas. Mais c'est tout ce qu'eux me disent, qu'ils trouvent que c'est la vérité. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de ne plus discuter avec eux, de rester dans mon côté et de faire mes choses en cachette.
Élie, quand, voilà. quand vous dites discuter, vous racontez vos journées, vos rencontres, ce dont vous avez envie ou vous leur posez des questions?
Non, c'est bon. Très souvent, c'est eux qui m'approchent pour me dire ah, Élie, bon, je veux qu'on discute, je veux qu'on parle d'un sujet. Et voilà, ils abordent le sujet. Et bon, quand je donne mon avis, très souvent, je pense que je ne connais rien de ça, donc il rejette mes propos, voilà.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple, Élie, justement, de sujet sur lequel vous vous opposez avec vos parents et donc, finalement, vous avez décidé d'arrêter d'en parler avec eux?
Voilà, concernant les sorties, des fois, je dis, bon, puisque je m'ennuie à la maison, je vais sortir un peu, m'amuser avec mes amis Et ça, ils trouvent que bon, c'est pour aller faire des conneries, que ça va m'amener à faire d'autres choses.
Et vous avez l'âge de sortir? Vous avez quel âge, Ellie?
J'ai 19 ans.
Et vos autres amis, ils sortent entre eux, ils ont des fréquentations aussi, ils passent du bon temps ensemble?
Oui, oui, ils passent du bon temps ensemble. Mais parfois, moi, je reste à la maison parce que c'est la volonté de mes parents.
Donc, ça veut dire qu'au bout du compte, vous écoutez ce qu'ils vous disent, mais vous en gardez une forme de rancœur. Vous regrettez de ne pas pouvoir partager ces moments avec vos amis, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Mais des fois aussi, j'arrive à mentir pour pouvoir sortir. Je leur dis, bon, peut-être que je vais quelque part, je vais apprendre quelque chose comme ça. Mais ça fait que, en fait, je ne veux pas mentir en vrai, mais bon. Puisque j'ai envie de m'amuser, moi aussi, je suis obligé de le faire.
Et du coup, vous rangez plutôt dans le silence ou plutôt dans le conflit, vous vous disputez avec eux?
Bon, quand je rentre, puisque je les ai mentis, ils sont au courant de rien. Mm-hmm. Donc, il y a un petit calme à la maison. Des fois, ils arrivent à comprendre que, bon, peut-être que Ellie, ce que tu dis là, c'est pas trop ça, hein, mais bon. Comme tu as déjà 19 ans, tu sais ce que tu fais, nous, on va rien te dire.
Donc, docteur Marie-Claude Gavard, hein, on entend Ellie qui a tout simplement envie d'aller voir ses amis, de sortir. Il a 19 ans, ses parents qui lui disent que ce n'est pas une bonne chose pour lui. Et du coup, il leur ment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Ellie?
Alors, Ellie, vous avez envie de vivre votre vie de jeune, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement sain. Je trouve que c'est important pour tous les jeunes qui sont dans votre situation de voir que vos parents souhaitent pour vous le meilleur d'après leurs convictions. Et effectivement, ce sont des convictions qui évoluent avec le temps. Et vous, vouloir vivre votre vie et rencontrer des amis, c'est vraiment normal, si on peut dire. C'est logique. Et ça fait partie de votre évolution. Donc, là, vous êtes obligé de mentir, sinon il y a un conflit. Vos parents pensent avoir toujours raison, ça c'est un tort, ils ne le savent pas. Apparemment, la communication ne peut pas passer avec eux, donc on va dire que votre mensonge, et ce serait bien que ça ne vous fasse pas culpabiliser, est un mensonge diplomatique. Et vraisemblablement, lorsque vous aurez des enfants, vous n'agirez pas comme ça, vous rappelant de ce passage difficile. Et effectivement, le jardin secret que vous pouvez avoir par rapport à vos parents est indispensable pour votre évolution très saine. Donc là, vous faites en fait pour le mieux.
Ellie, quand vous faites ces sorties, vous n'avez pas l'impression de faire des choses interdites, vous n'avez pas l'impression de vous mettre en danger. Vous restez dans les clous, comme on dit.
Non, les sorties, c'est juste pour s'amuser en famille, voilà. Famille plutôt. Et discuter, voilà, échanger, déstresser.
Passer un bon moment, mais ça ne remet pas en cause, par exemple, vos projets d'avenir, d'études ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas de vous un délinquant, on va dire, pour parler comme ça un petit peu crûment.
Non, non, j'ai eu la chance, j'ai déjà eu le bac, déjà, ça fait 2 ans. Mm-hmm. Donc,
en plus, vous êtes un bon élève.
Oui. Et je sais que s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, moi, je le sais et je ne le ferai pas.
Et donc, en vous entendant, Ellie, on voit que vous êtes quelqu'un de responsable, que vous ne courez pas de risques et que vous avez une vie d'étudiante classique et très bonne pour vous.
Bien ça.
Est-ce qu'on entend bien, hein, Adja, vous vouliez réagir? Ellie, c'est un jeune homme sage, un étudiant brillant, puisqu'apparemment, il a eu son bac à 17 ans, et malgré tout, on lui pose des interdits.
Absolument, je comprends bien la position d'Ellie, c'est vraiment très dur et c'est le cas réel avec beaucoup de jeunes. Donc moi, ce que je vais conseiller à mon frère Ellie, c'est vraiment d'essayer d'échanger avec ses parents et de ne pas se culpabiliser parce qu'il ment et ce mensonge, comme l'a dit docteur diplomatique, mais faut pas qu'il s'en veuille pour ça et qu'il essaye vraiment de clarifier les points et qu'il dise à ses parents: bon, écoutez, j'ai eu mon bac et je suis un bon étudiant. Certes, vous avez vraiment peur que je ne fasse du n'importe quoi. Rassurez vraiment les parents que quand tu es avec tes amis, ce n'est pas autre chose, mais c'est juste pour te sentir mieux et tu as besoin vraiment d'être avec tes amis. Et c'est très important. À un moment donné, eux-mêmes, ils te diront: bon, écoute, vu que c'est ce que tu demandes et tu nous montres réellement le bon exemple, on te laisse partir. Donc, c'est vraiment selon ton comportement Et selon toi-même, tu vas ce que tu vas montrer à tes parents, c'est ce qui va les vraiment les pousser afin de faire en sorte qu'ils aient plus confiance, parce que c'est une question de confiance tout ça, confiance en toi, et qui te laisse partir avec tes amis, parce que c'est évident, c'est important et d'ailleurs même indispensable que tu ne sois pas vraiment enfermé dans la maison et que tu sortes et que tu sois avec tes amis, et c'est le cas avec beaucoup de jeunes. Donc Ellie est vraiment, moi je dirais, une goutte d'eau dans l'océan, et il y a assez, et pas que les, et je suis un peu étonnée que ça soit seulement que ça soit un garçon, parce que souvent aussi côté des filles c'est encore dur, parce que les filles sont beaucoup plus renfermées et surtout enfermées par leurs parents, et on dit bon, t'es une fille, tu restes à la maison. Les garçons quand même ils sont beaucoup plus libres, mais t'as 19 ans, t'es je pense que tu es déjà un bon exemple, et que ça peut vraiment essayer d'échanger avec papa et maman, et tu fais en sorte qu'ils aient confiance en toi, ça serait super, tu vas voir.
Allez, très bonne journée Ellie, très bonne journée à Abidjan. On part pour la République démocratique du Congo, hein, pour Kinshasa, avec Vivine qui est en ligne avec nous. Vivine, bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute, Vivine, allez-y.
Bon, je parlais juste concernant le sujet. Comment de parents à nous évitent d'aborder ces sujets-là, les sujets-là. Et il arrive même que personne qui se prépare même pour aller au mariage, les jeunes filles, que ce soit les jeunes messieurs, ne savent pas aider par leurs parents en raison de la sexualité. Ils vont découvrir eux-mêmes. Pour ça, ils laissent la place aux parrains ou aux marraines de les apprendre à ces sujets. Comme ça que je voulais à ce que nos parents prennent conscience, parce que nos parrains et nos marraines ne remplacent pas nos parents. Donc, si ça vient de nos parents, il serait plus mieux que ça vienne de nos marraines ou de nos parents.
Donc, ce que vous nous dites, Vivine, c'est qu'on attend justement le moment du mariage pour donner des indications, pour donner des explications sur le rapport amoureux, la relation amoureuse, la relation sexuelle. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu tard d'aborder cette question à ce moment-là, ou finalement, cela se fait comme ça, et c'est bien comme ça?
Alors, moi, je pense que c'est un petit peu tard, parce que quand quelqu'un s'est déjà engagé, vous lui en parlez peut-être à 2 ou à 3 jours de son mariage, qu'est-ce qu'il va retenir à ces moments-là? Pourquoi ne pas préparer la personne le mois avant pour que la personne comprenne ce qui va se passer réellement au mariage et ce que c'est, comment aborder ce sujet avec soit son futur mari? Donc c'est comme ça que quand on l'aborde à quelques jours du mariage, c'est un peu tard et ça ne facilite pas les choses aux personnes qui se marient.
Docteur Marie-Claude Gavard, ce qu'on entend avec le témoignage de Vivine, hein, une nouvelle fois, c'est que cette communication entre la génération des parents et celle des enfants, eh bien, elle bute toujours sur ce fameux sujet du rapport amoureux, de la sexualité.
Oui, il y a vraiment une angoisse de la part des parents. Peut-être qu'ils ont peur qu'une information précoce fasse qu'il y aurait une appétence à la sexualité en dehors du mariage, et trop précoce, trop tôt, c'est possible. Mais là, je voudrais savoir, Vivine, votre information par rapport à la sexualité, vous ne l'avez pas eue par des amis ou par des personnes un petit peu plus âgées, en dehors de la marraine, près du mariage? Vous n'avez pas les informations?
Bon, moi, j'ai eu ces informations lors des cours de sexualité à l'université.
Ça veut dire, oui, que finalement, ce que vous ont dit vos parents le grand jour, vous le connaissiez quand même plus ou moins?
Je ne vous entends pas bien.
Je voulais dire, ce que vous ont dit vos parents le jour du mariage, vous en aviez déjà bien entendu parler.
Déjà bien entendu parler.
Mmh.
D'accord.
Donc finalement, les parents ont des appréhensions pour des choses. En fait, ils vont annoncer des choses que la plupart des jeunes savent déjà.
Oui, c'est ça. Et là, le rôle de la marraine ou du parrain, on voit que c'est les parents qui ont plus de facilité à donner la parole à l'extérieur, en fait. Mais bon, les jeunes sont informés comme un peu partout maintenant, d'ailleurs.
Vous vouliez réagir, Adja, justement, sur ce fait que finalement, les parents arrivent avec un certain cérémonial pour annoncer des choses, mais en fait, eh ben, les gens, ils savent déjà l'essentiel, quoi.
C'est ça, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de faire en sorte que l'éducation à la sexualité soit inclue dans les différents programmes scolaires, d'où d'ailleurs ce que Vivine a vraiment suivi dans son université, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut rappeler que c'est une question traditionnelle et que souvent, les parents se disent, bon, écoute, c'est souvent quand tu les poses la question s'agissant du mariage, de la sexualité et tout, quand ils te disent que le moment viendra, le moment c'est le mariage, c'est le jour du mariage, donc c'est ce jour-là on essaye d'aborder la fille, on essaye d'aborder aussi le garçon, d'où aujourd'hui l'importance de dire que l'éducation à la sexualité c'est pas que la fille mais aussi le garçon, c'est super important parce que elle ici elle est gênée du fait que son mari a été vraiment abordé par voilà son père, donc c'est vraiment important à ce niveau-là que chaque parent puisse aborder son propre enfant, c'est super intéressant pour permettre vraiment à chacun d'être libre dans sa tête. Mais c'est quand même dommage de voir que souvent ces sujets sont abordés tardivement et où vraiment c'est trop tard. Qu'en est-il des enfants qui ne sont pas à l'école? Qu'en est-il des jeunes qui n'ont pas accès à toutes ces informations? C'est vraiment dommage. Donc ce qui veut dire qu'ils seront mal informés, on ne sait pas qui informe. Est-ce que cette personne aussi est bien informée à son niveau? Donc c'est ça peut créer après vraiment des petits soucis dans l'avenir et tout. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment amener les parents à les aborder dès l'âge de la puberté, dès qu'ils commencent à poser les questions, comme on l'a dit au début, et ne pas attendre après. C'est très important. Et sachez que il faut avoir confiance aux enfants. Au moment où tu essayes d'expliquer ces sujets-là à ta fille ou à ton jeune garçon, ça ne veut pas dire que directement l'enfant va aller essayer d'appliquer cela. Tu le préviens déjà. C'est une façon de prévenir. On dit souvent avec l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Mais au moment où c'est trop tard, l'enfant déjà tombe enceinte ou a atteint, je sais pas, une maladie sexuellement transmissible, c'est pas à ce moment que tu vas commencer à lui conseiller quand même. Donc je pense que nos parents doivent avoir cette pédagogie et surtout cette tradition. Là, elle peut continuer, mais dès avant, il faut déjà préparer l'enfant. Comme on le dit, on prépare pas le chien le jour de la chasse quand même. Donc c'est super important cela.
Prendre les devants, ça s'appelle. Merci beaucoup, Vivine, pour ce témoignage. On va prendre un autre appel, peut-être une autre question, en tout cas un témoignage du Tchad avec Fabrice. Fabrice, une auditrice, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Nous sommes à votre écoute. Allez-y, racontez-nous.
Ok, merci. Bon, moi, j'ai un problème de communication avec mes parents. Et là, précisément, je suis avec une grande sœur âgée d'au moins 37 ans, qui elle m'a adoptée depuis 2004, où j'ai juste 5 ans, et précisément, j'ai maintenant 20 ans. Mais c'est pas facile que je puisse avancer vers cette grande sœur et expliquer clairement mes problèmes, mes besoins. J'avais essayé de m'approcher auprès d'elle quand j'avais 12 ans. Je suis venue l'expliquer un problème que j'ai vécu à l'école avec mes camarades. Et du coup, elle s'est tournée pour moi pour me dire que c'est moi qui ai fautif, c'est moi qui ai la cause de tout ce problème, donc je ne la mets pas. Et elle a rejeté mes propos du coup. Et c'est dès ce bas âge, quand j'ai 12 ans là, que je commence à être malentendu entre moi et cette grande sœur. J'ai essayé encore de me rapprocher auprès d'elle. Quand je viens à l'école et que je comprends certaines choses déjà, surtout ce qui est de ma vie relationnelle avec mes amis, que ce soit garçon ou fille, elle ne s'intéresse pas du tout. Ses réponses envers moi, c'est que je suis déjà grande, donc je veux commencer avec mes défis, que je veux l'emmerder. Donc là, je ne cherche pas à la traquer. Si je suis déjà responsable, si je me vois déjà grande, que je peux gérer tout ce que je fais à ma manière, mais que je ne vienne pas la déranger.
Et vous, ça vous manque, Fabrice? Excusez-moi, est-ce que ça vous manque, Fabrice, justement, d'avoir quelqu'un au-dessus de vous en âge, un aîné, à qui vous confiez? Vous avez besoin de cette relation-là?
Oui, j'ai des aînés. Mais le problème en est que nous sommes dispersés un peu partout. Comme je vous l'ai dit au début, cette grande sœur m'a adoptée juste quand j'ai 5 ans. Et mes frères, mes aînés sont un peu aussi dispersés un peu partout. Donc, depuis 5 ans que je suis avec elle ici, c'est pas facile que même avec mes frères aînés, mes petits sœurs, on n'arrive pas à se voir jusqu'à présent.
Docteur Marie-Claude Zigavard, ce que nous dit Fabrice, excusez-moi Fabrice, c'est qu'on a besoin d'une oreille, on a besoin d'une écoute. On entend bien Fabrice qui est dans une certaine situation de désarroi parce que cette écoute, elle ne l'a pas auprès de cette sœur qui s'est substituée à une mère. Mais finalement, on entend qu'elle n'a pas envie de faire office de mère.
C'est-à-dire pas envie ou qu'elle ne sait pas
ou
faire.
Elle n'y arrive pas. Hein,
parce qu'en fait, c'est là, compliqué. On voit que Fabrice a été séparé de ses parents et adopté par sa sœur. Il y a presque un écart d'une génération et il semble que la sœur affiche les mêmes problèmes de difficultés de communication que des parents classiques, en fait. Et donc, peut-être que Fabrice pourrait lui demander à sa sœur ce qu'elle lui reproche. Peut-être qu'elle a des choses à lui reprocher, de parler en lui exprimant son besoin de son affection, parce que peut-être que sa sœur se met un peu à l'écart parce qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi lui conseiller. Et moi, je pense que la sœur est très mal à l'aise également. Donc, peut-être dire, écoute, tu es ma sœur et j'ai vraiment besoin de ton affection. Explique-moi si je fais des choses qui ne te conviennent pas. Moi, je voudrais t'expliquer quels sont mes buts. Tu peux avoir confiance en moi. Je travaille, je suis quelqu'un de sérieux. Et vraiment, tu me manques. Peut-être qu'elle peut se positionner sur le plan affectif. Bon, est-ce que sa sœur répondra? On ne peut pas savoir, mais qu'elle essaie au moins de dire « j'ai besoin de ton affection, j'ai besoin de ton amour et j'aimerais qu'on soit plus complices ».
Fabrice, est-ce que vous avez déjà essayé d'aller vers votre sœur justement en ayant des mots comme ça de demande, de tendresse, en lui disant « tu es là pour moi, est-ce que tu peux être là pour moi ?»
Oui, Caroline, j'ai essayé de faire ça quand j'étais en première année, dans mes études, à l'époque, les sages-femmes et moi, étudiée. J'avais abordé un problème avec elle et je lui ai dit clairement que j'ai besoin de son attention. Qu'elle me pardonne, même si je fais des choses qui ne la plaît pas comme toi, là, maintenant, il est moment qu'elle puisse être comme ma confidente.
Oui, donc vous avez fait cette démarche. En plus, d'après ce que j'ai compris, vous êtes à l'école de sage-femme, donc vous avez vraiment un engagement sérieux dans la vie. Docteur Gavard, elle a essayé, Fabrice, c'est difficile.
Oui, mais elle a essayé, j'entends, dans son enfance. Maintenant, vu son cursus, qui est tout à fait honorable, elle peut déjà remercier sa sœur de l'avoir adoptée, parce que s'il n'y avait pas eu cette adoption, on ne sait pas dans quelle situation aurait vécu Fabrice, mais lui dire, tu vois, maintenant je réussis bien. C'est aussi parce que j'ai suivi ton modèle, parce que sûrement qu'il y a de ça, parce que la sœur a montré quand même une attention à sa petite sœur en l'adoptant, donc remercier et dire maintenant tu peux me faire confiance et surtout j'ai besoin de tes conseils et j'ai besoin que l'on discute.
Adja, vous vouliez réagir?
Oui, bien sûr. Donc, au-delà de ce que le docteur disait tout à l'heure, je pense que Fabrice, déjà, c'est une grande fille, on a même âge, je comprends bien, en fait, ce qu'elle vit maintenant. Et ce que je vais te conseiller, je pense que réellement, ici, la situation de ta sœur, c'est une question d'écart d'âge. Parce que souvent, tu sais, Caroline, on parle entre amis sur ces questions-là. Donc, vu que sa grande sœur peut-être lui prend comme sa petite sœur, et donc elle ne peut pas aborder ce genre de sujet avec elle. Peut-être qu'elle le fait, sa grande sœur, avec ses amis, et elle aussi, à son tour, elle s'attend à ce que sa petite sœur le fasse avec ses amis. Donc, c'est une question peut-être générationnelle, mais à un moment donné, il faut suivre les conseils du docteur. Vas-y, il faut la remercier, il faut demander à ce que vraiment qu'elle ait confiance, et tu veux qu'elle soit ta confidente. Si ça ne marche pas, il faut pas t'enfermer, il ne faut pas rester toute seule, ne prends pas ta vie à seule. C'est très important, il faut avoir des conseils, il faut avoir des aînés qui sont là, qui partager vraiment ta vie à un moment donné. Certes, c'est les parents qui sont les plus protecteurs. À un moment donné, tu peux partager ton histoire à tes amis et qui ne font pas, en fait, qui n'inspire pas assez confiance et qui vont aller partager cela. Je suis sûre c'est de ça qu'elle a peur. Elle a envie de partager son histoire avec une de ses protectrices. Donc, je pense qu'il faut tenter encore, retente une deuxième fois si ça marche pas. En tout cas, cherche-toi des amis, cherche-toi des confidences, c'est super important.
Voilà, Fabrice. Bonne journée au Tchad. Il nous reste peu de temps avec Obed, mais on va quand même prendre Obed en ligne. Elle est au Ghana, à Accra. Bonjour, Obed.
Bonjour, l'équipe RFI.
On vous écoute, allez-y.
Oui, concernant ce sujet, J'avais un problème très très sérieux avec mes parents quand j'étais adolescent.
Mmh.
Oui, la première, c'est que j'ai manqué l'amour de mon père. Sincèrement, j'ai pas l'amour envers mon père. C'est quelqu'un qui est dictateur et il n'arrive pas à penser les problèmes dans une manière amoureuse. Mmh. Et tout ce qu'il dit, c'est final. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon carrière, quand j'étais à l'université, il disait que moi, je vais poursuivre une carrière que je n'aime pas. Je ne veux pas ça. Mais lui, il dit que c'est ça que je dois faire. Et c'est maintenant que moi-même, j'ai décidé de recommencer encore.
Mmh.
Oui. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas l'amour. Je manque seulement l'amour. Au moment où je vois mon père, je m'énerve. Et je n'arrive pas à sa sortie. C'est maintenant que je suis en train d'arranger avec un psychologue, mais pas encore, je n'ai pas encore l'approché. Je veux savoir est-ce que je veux m'en sortir dans ce problème.
Ce problème, c'est cette relation avec ce père qui semble tyrannique, pas du tout à l'écoute, hein, qui est sur une ligne droite et qui ne veut pas prendre le moindre petit virage avec avec Obed. Docteur Gavard, est-ce qu'on peut, on parle depuis le début des relations avec les parents, distinguer les choses justement dans certaines familles entre père et mère qui peuvent justement offrir des choses différentes?
Oui, offrir des choses différentes. Et puis, quand on dit le père ne veut pas, peut-être qu'il ne peut pas. Mm-hmm. Parce que tout dépend aussi ce qu'il a vécu. Tout dépend, alors pourquoi est-il fermé comme ça? Chacun a ses difficultés de vie. Et bon, s'il ne peut pas donner davantage, effectivement, un travail avec un psychologue peut peut-être vous permettre de passer outre, c'est-à-dire aussi faire le deuil de la relation idéale si vraiment votre père ne peut pas faire autrement. Parce que courir après quelqu'un qui ne peut pas donner, ça peut être extrêmement frustrant et c'est une blessure qui est constamment réouverte alors que peut-être il faut tourner la page.
Et justement, quand Obed dit qu'elle envisage même d'aller voir un psychologue tant elle souffre à cause de cette relation ratée.
Ah, ce serait une très bonne idée, très démarche, très bonne idée, ouais. Pour arriver à comprendre ce qui se passe chez son père notamment.
Obed, vous réessayez régulièrement de communiquer ou c'est vraiment impossible?
Oui, des fois, on se communique, mais ça se termine avec mes attentes.
Mes attentes, ça veut dire carrément des cris, de la colère?
Oui, parce que mon idée est différente de ton idée. La manière dont on approche les idées, c'est différent. Et c'est comme si il ne m'aime pas, c'est comme si moi, je ne l'aime pas.
D'accord, c'est vous sentez carrément une tension, comme un manque, et vous interprétez ça comme un manque d'amour, hein, docteur Gavard. Il y a eu justement ces mots dits par Obed. Mm-hmm. Elle recherche l'amour de son père.
Oui, c'est ça. Or, en fait, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas cet amour. Mais il y a une grande difficulté de communication, vraisemblablement un père qui est très figé sur ses certitudes, ses croyances, qui peuvent être totalement, enfin, ou en partie fausses. Et en fait, cette difficulté que certains ont, et le manque de souplesse qui, souvent, est dû à un manque de confiance en soi. Quand on ne peut pas discuter avec les autres, c'est que finalement, l'argumentation n'est pas forcément convaincante. Et bon, dans l'idéal, et ça c'est bon pour tous les parents, lorsque on voit qu'il y a une difficulté avec ses enfants, il serait très bon de dire aux enfants, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait des erreurs, si je t'ai fait souffrir alors que ce n'était en aucun cas mon intention, je te présente mes excuses. Maintenant, je saurai certaines choses différentes avec le développement personnel et toute la littérature psychologique que l'on a maintenant à sa portée. On peut dire à ses enfants, je n'aurais pas agi comme ça, je suis absolument désolée. Et reconnaître ses erreurs est un pas formidable de communication et de reprise de communication. Et ce n'est en aucun cas s'inférioriser, mais c'est parler d'humain à humain pour refaire une équipe familiale.
Voilà, Obed, ces conseils. Très très bonne journée au Ghana. Cette question à Jaïd Rissaba que je posais au docteur Marie-Claude Gavard tout à l'heure, sur ses parents au pluriel, hein, et parfois une attitude très différente, la maman, le papa, on ne parle pas forcément de la même manière aux deux. Quand vous en parlez avec vos amis, avec les jeunes avec lesquels vous travaillez, vous ressentez justement vraiment cette différence entre les parents?
Oui, bien sûr. En fait, quand on essaye d'échanger entre amis, on a l'impression de comprendre que chaque parent a vraiment sa part de responsabilité dans l'éducation de l'enfant, notamment cette communication dont on parle maintenant. Et quand on prend la maman, elle parle beaucoup plus avec les filles. Donc, les parents, ils se disent entre eux, bon, on a des enfants maintenant, on a des garçons et des filles. Donc, toi, tu t'occupes des filles et moi, je m'occupe des garçons parce que je partage voilà les mêmes expériences avec les garçons et tout, alors qu'à un moment donné en fait on a besoin vraiment d'avoir l'expression de tous les deux, mais le papa des fois il hésite d'en parler avec les filles, mais ça c'est quand même des cas exceptionnels. Mais à un moment donné quand même les filles sont beaucoup plus proches en fait de leur papa, et voilà, et les filles et les garçons sont beaucoup plus proches de leur maman parce que tout simplement à un moment donné le papa il a pitié de sa fille et la maman aussi a pitié de son garçon. Et c'est une question, en fait, ça c'est une grosse question qui dépend vraiment des familles, et chaque famille a sa manière de faire, a sa manière d'éduquer, mais souvent, oui, vas-y Caroline.
Oui, je voulais poser une question importante, parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, depuis le début, des difficultés de communication. Ça peut aller jusqu'à la rupture, comme les minutes avancent, et je voudrais vraiment me tourner vers le docteur Gavard par rapport à ça. Quand il y a rupture, on peut dire qu'il y a des risques pour la vie de l'enfant, ça c'est très important de le souligner, pour sa santé, parce que quand il est chassé de la famille, il peut se mettre dans une situation où il va avoir des conduites à risque, ou là carrément, pour éviter de bons amis, tomber dans des mauvaises fréquentations. Il faut mettre en garde là peut-être les parents tout simplement, de dire ne coupez pas le lien, parce que c'est mettre aussi l'enfant en danger.
Oui, et les parents sont souvent désespérés, ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus quoi faire. Alors surtout, dès qu'il y a des soucis, quel que soit l'âge de l'enfant, pensez à aller voir un pédopsychiatre ou un psychiatre, parce que l'adolescent aura un lieu de parole en dehors de la famille, et ces professionnels-là sont rompus à cette problématique. Donc, n'hésitez pas, même quand un enfant a 2-3 ans, à aller demander des conseils à un pédopsie à l'adolescence, que cet enfant est un lieu de parole en dehors de la famille. C'est fondamental, une rupture totale est un risque vital pour l'ado, donc surtout il ne faut pas faire ça. Il y a d'autres moyens. Il y a même des foyers d'accueil, mais mettre un enfant à la porte, c'est la dernière des choses envisageables. Faites-vous aider.
Et on peut même avoir un relais communautaire, se tourner vers, quand on n'a pas un psy à portée de main, vers un instituteur, vers un chef de village, vers quelqu'un dans la communauté, même un oncle un petit peu plus éloigné ou une tante, pour Adja Idriss Aba, pour ne pas laisser le jeune sur le côté de la route. C'est important.
Bien sûr que oui, on en connaît assez de jeunes aujourd'hui qui grandissent dans les rues et qui en ont marre vraiment de leur vie avec leurs parents, parce que tout simplement, à un moment donné, c'est toujours cette communication qui manque, mais les parents aujourd'hui, ils décident vraiment de bannir leurs enfants. Nous, on en connaît assez, même les filles, par exemple. Nous avons une fille aujourd'hui qui est vraiment sous notre charge parce qu'elle a été bannie par ses parents, et tout simplement parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas se marier. Et donc, du coup, on a jugé cela anormal et qu'une fille ne doit pas vraiment porter plainte contre ses parents, elle doit pas faire ceci, cela, alors qu'elle a le plein droit vraiment de dire qu'elle ne veut pas, et savoir réellement pourquoi son enfant ne veut pas cela. C'est super important, que de mettre ton enfant dehors, c'est encore risqué, parce que parmi tous ces enfants qui vivent dans les rues et qui grandissent dans les rues, c'est seulement une minorité d'entre eux qui réussissent. On a vu Yigi Arafat, paix à son âme, il a grandi dans les rues, mais vraiment c'est un exemple aujourd'hui, parce que tout le monde, tous ces enfants qui grandissent dans les rues l'apprécient, parce que c'est rare de voir un qui grandit dans la rue et qui réussit.
Et un autre recours, on l'a compris en vous écoutant Adja Idriss Aba, c'est le recours aux associations et aux ONG. Merci beaucoup Adja, présidente du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Et à vous docteur Marie-Claude Gavard pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute. Lutter contre la sédentarité, l'activité physique, c'est bon pour nous. Et on en parle avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans Priorité Santé, vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Avec vous, on va parler des anti-inflammatoires. Parfois, on en prend quand on a une douleur, juste avant de faire du sport, de pratiquer. On choisit justement de prendre un de ces cachets. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
C'est pas une très bonne idée, Caroline, parce que en fait, les anti-inflammatoires sont trop largement utilisés. C'est de l'automédication qui est excessive et particulièrement dans le sport. On se rend compte que d'une manière générale, les anti-inflammatoires, c'est l'ibuprofène, le kétoprofène, l'aspirine qui sont utilisés, et tout cela, quelquefois même de manière concomitante. Hein, quelquefois, les gens font des mélanges et utilisent tout cela. Alors, la motivation, généralement, de ces sportifs, c'est l'effet antidouleur. Hein, et le problème, c'est que ces médicaments sont pris sans réel contrôle, parce qu'ils sont en vente libre dans les pharmacies, donc ils sont faciles d'accès. Et puis, ils figurent pas non plus sur la liste des produits interdits, des produits dopants. Et donc, tout ça fait que on note que la consommation chez les sportifs va de 2 à 4 fois plus importante, 2 à 4 fois celle de la population générale. Donc, on se rend compte que c'est une vraie problématique.
Est-ce que ce sont vraiment les effets recommandés? Est-ce que c'est toujours justifié? Est-ce qu'il peut y avoir, docteur Sen, des effets secondaires?
Bah, effectivement, les indications médicales strictes, souvent, ne sont pas là. Hein. On prend ce médicament parce qu'on a mal et puis il n'y a pas de vrai effet ou de vrai mécanisme inflammatoire. Et ça, et souvent, même les utilisateurs, hein, les sportifs qui utilisent ça ne sont pas conscients des effets secondaires qui peuvent ne pas être négligeables. D'abord, bien sûr, les effets digestifs peuvent être importants. Il y a une vraie toxicité gastrique, intestinale des anti-inflammatoires qui peuvent favoriser des saignements digestifs en plus de l'irritation digestive que peut entraîner le sport, notamment le sport d'endurance. Donc on peut avoir des effets et des lésions intestinales secondaires importantes. On sait que ça trouble la cicatrisation lorsqu'on est avec un effet accru des hématomes. C'est-à-dire que si dans un processus de cicatrisation, il y a un processus tout au départ qu'on appelle un processus de détertion qui sert à finalement, il y a un phénomène inflammatoire qui apparaît. Et quand on prend les anti-inflammatoires, on trouble ce processus de cicatrisation et ça c'est un effet néfaste, et puis ça peut augmenter également l'apparition et le développement d'hématomes après certains coups. Et puis il y a l'atteinte rénale. Aussi, quand on fait du sport, on peut avoir une déshydratation, surtout si l'activité est prolongée ou en milieu, bien sûr, où il fait chaud. Et les anti-inflammatoires peuvent aggraver l'atteinte rénale de la déshydratation. Et puis enfin, la dernière chose, c'est la prise sur une longue période d'anti-inflammatoires, où on a pu démontrer que ça favorisait des accidents cardiovasculaires graves, coronariens, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, qui étaient plus nombreux chez les personnes qui prennent des anti-inflammatoires sur une longue période, une longue durée.
Ça pourrait même faire peur. C'est inquiétant, docteur Sen. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs?
Il y a quelques points qui sont assez simples, vraiment à retenir. Première chose, c'est pas parce qu'un médicament est en vente libre et qu'il n'est pas interdit par l'Agence mondiale antidopage qu'il n'est pas dangereux. Ça, c'est la première chose. Il faut pas oublier des règles simples de traitement en cas de blessure. La première chose, c'est d'avoir, si on a une blessure, le diagnostic le plus précis possible. Essayer d'avoir aussi un traitement, une rééducation la plus efficace. Ça, c'est quand même la base. Et puis, essayer de respecter des délais de cicatrisation. C'est toujours la première question qu'on nous pose, d'ailleurs, combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai que ce délai de cicatrisation, quelquefois, on peut pas aller en dessous. Et il faut admettre cela. Et puis, l'autre chose, c'est que si on doit utiliser des anti-inflammatoires alors que l'entraînement et poursuivi, il faut absolument que ce soit en période courte, parce que sinon cela va entretenir finalement une lésion et masquer d'une douleur qui est liée à la présence d'une lésion. Et puis, ne pas hésiter à ce moment-là à consulter assez rapidement, de préférence un médecin du sport, on fait pas de publicité, mais un médecin du sport qui pourra, bien sûr, tout à fait adapté, vous expliquer comment modifier votre activité. Donc, tout cela nous fait dire qu'il faut que les auditeurs retiennent que les anti-inflammatoires, c'est pas obligatoire.
Oui, ça rime. Merci, à bientôt, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo et poète à 16 heures. Nos auditeurs en ont désormais l'habitude. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique et la réalise. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, nous allons parler de la santé des reins, prévention, insuffisance rénale, dialyse. Vos questions, vos témoignages au 33 84 22 75 75. À demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.